Le premier livre d'aujourd'hui a pour titre « Quelques aspects de la pensée d'un mathématicien ». Il a pour auteur M. Paul Lévy. M. Paul Lévy est né en 1886. Il a fait ses études au lycée Louis-le-Grand et au lycée Saint-Louis à Paris. Professeur à l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, puis professeur à l'École polytechnique, il est en 1924 président de la Société mathématique de France. Membre de l'Institut, ses travaux portent sur le calcul des probabilités, le calcul fonctionnel, ainsi que sur la théorie des fonctions et la théorie des équations. Depuis 60 ans, l'activité de M. Paul Lévy a été partagée entre l'enseignement et la recherche mathématique. Quelques aspects de la pensée d'un mathématicien et son premier livre, il vient de paraître aux éditions Albert Blanchard. Ce premier livre est divisé en deux parties. La première, Souvenirs mathématiques. La deuxième, Considérations philosophiques. Et dès l'introduction, M. Paul Lévy nous confie « Je ne me résigne pas à n'être plus qu'un survivant du dernier siècle qui consacre les loisirs de sa retraite à lire des romans, faire des mots croisés et regarder la télévision. Je crois être encore bon à faire quelque chose et cela pour moi signifie écrire. Mon âge et ma santé ne me permettent plus d'autres activités. J'aime d'ailleurs m'asseoir à mon bureau et mettre sur le papier des idées qui s'agitent dans ma tête depuis longtemps. Parfois, je me laisse entraîner par ma plume, c'est-à-dire qu'aux idées longuement mûries s'en ajoutent d'autres qui me sont venues au moment d'écrire. La censure vient le lendemain quand je me relis. Tantôt, je suis content de mon improvisation, tantôt, je la déchire et dois recommencer une ou plusieurs pages. Mais dans l'ensemble, le livre que je présente maintenant est un exposé d'idées longuement mûries. Ce livre fut commencé en 1969 et M. Paul Lévy avoue « Je me suis vite aperçu que c'était une tâche bien difficile. Heureusement qu'il y a eu l'influence décisive de mon neveu, le professeur et philosophe Pierre Boudot, qui a joué un rôle important dans ma décision. » Et si vous le voulez bien, nous allons tout d'abord écouter le début du premier chapitre de « Quelques aspects de la pensée d'un mathématicien ».
Je suis né à Paris, le 15 septembre 1886. Je n'ai aucun souvenir de l'appartement où je suis né. Mes premiers souvenirs se situent dans l'appartement de la rue de Condé, tout près du Luxembourg, où nous nous installâmes en 1889, ou peut-être en 1890. Ma mère nous faisait travailler, ma sœur plus âgée que moi de 19 mois et moi. C'est elle qui m'apprit à lire et à écrire, et qui m'apprit aussi les éléments de l'arithmétique. Je n'ai aucun souvenir de ce premier éveil de la pensée mathématique. Si je ne savais pas qu'une vie oubliée a précédé l'époque de mes premiers souvenirs, je dirais que j'ai toujours su compter et faire correctement les quatre opérations de l'arithmétique élémentaire. Je n'ai pas non plus de souvenir précis de l'époque où j'ai appris l'extension de ces opérations aux nombres décimaux et aux fractions. Voici maintenant le premier souvenir que j'ai d'une idée mathématique nouvelle, apparaissant brusquement et spontanément dans mon cerveau. J'avais, je pense, 7 ans. Je marchais dans une allée du Luxembourg, devant la statue de Delacroix, donnant la main à une grande fille qui devait avoir 12 ou 13 ans. Naturellement, je devais lever la main et m'en étonnais. Elle est plus grande que moi, mais son bras est plus long que le mien. Et ceci devrait compenser cela. Tout à coup, je compris. Tout est agrandi dans la même proportion. Je crois pouvoir dire que je n'ai rien appris depuis sur les figures semblables. Au lycée, en ce qui concerne les lettres, je n'étais pas à la tête de la classe. Un jour, en février ou mars, notre professeur, monsieur de la philologie, me déclara qu'il fallait que j'aie le prix de thème grec au concours général. Je ne sais pas comment il fit. Fus-je hypnotisé par lui, j'eus le prix. Cela devait être mon seul succès littéraire. Il ne devait pas suffire l'année suivante à attirer sur moi l'attention des 1000 mâles qui, de très haut, laissaient tomber sur la tête de la classe une faible partie de sa connaissance du latin et de sa science archéologique. J'étais allergique à Juvénal, chez qui il cherchait toujours, pour les compositions, ses textes de version. Et, fils indigne de mon père qui y excellait, j'étais incapable de faire un discours latin. Mais je lisais couramment Cicéron et Tacite. Et 1000 mâles ne le sut pas, car son regard ne s'abaissa jamais jusqu'à moi. Je ne crois pas avoir été interrogé une seule fois de toute l'année. Par contre, en mathématiques, nul ne me disputait jamais la première place. Cela avait commencé en sixième et ne devait cesser qu'en spécial, comme je le raconterai plus loin. Il est curieux que j'aie peu de souvenirs de mes classes de calcul en sixième et en cinquième. Par contre, j'ai souvent repensé aux classes de M. Ferval qui nous enseigna ensuite pendant 3 ans la géométrie et l'algèbre. La géométrie m'intéressait tout spécialement. Je comprenais sans effort les raisonnements qu'on nous exposait. Mais je crois que les méthodes n'étaient pas celles qui auraient convenu pour la plupart de mes camarades. Ils ne comprenaient pas la nécessité de démontrer des théorèmes évidents. Ainsi, un rectangle étant défini par ses 4 angles droits, il est évident que les côtés opposés sont égaux. Fallait-il le démontrer ? Aussi mes camarades apprenaient-ils par cœur, sans comprendre, le raisonnement par lequel on prétendait rendre évident ce qu'il était déjà pour eux.
Monsieur Paul Lévy, dans l'introduction de quelques aspects de la pensée d'un mathématicien, vous écrivez « Je ne me serais pas décidé à parler de moi comme je le fais dans ce livre, si ce n'était pour répondre à des questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises.
Oui. » Ce qui m'a surtout décidé, c'est une question qui m'a été posée par Monsieur Duguet, professeur à la Sorbonne, à l'occasion d'une cérémonie qui avait eu lieu à la fois en mon honneur et en celui de mon collègue, M. Fréchet, également probabiliste. Au cours de cette réunion, on avait parlé de mes travaux, et en particulier d'un théorème qui avait beaucoup surpris. Et M. Duguet, professeur à la Faculté des sciences, m'a demandé ce qui m'avait donné l'idée de ces problèmes. Et il a ajouté que, d'une manière générale, il serait heureux d'avoir des renseignements sur ma manière de travailler et sur le processus de ma pensée. J'avais déjà donné des indications dans le bulletin de l'Institut statistique de l'Université de Paris qui ont été publiés à cette époque. Mais à la réflexion, je me suis dit qu'il pouvait y avoir intérêt à leur donner un plus grand développement. J'ai l'impression d'être un mathématicien, je ne dirais ni inférieur ni supérieur aux autres, mais pas comme les autres. Et je crois que ça pourrait intéresser pas mal de personnes d'avoir des renseignements sur ma psychologie et sur mes méthodes de découverte.
Vous avez divisé votre livre en 2 parties. La première, autobiographie mathématique. La seconde, l'évolution de mes idées sur la philosophie. Pourquoi ces 2 parties ?
Bien, ces 2 parties sont absolument distinctes. La première partie mathématique répond à la question que vous venez de me poser et à laquelle j'ai déjà répondu. D'autre part, j'ai depuis longtemps des idées sur la philosophie qui ne sont pas approuvées par plusieurs de mes amis philosophes qui ne m'ont jamais facilité la publication de mes idées. Alors je me suis dit que je pouvais profiter de l'occasion pour les exposer. Mais c'est nécessairement une 2e partie absolument distincte de la première. Mais j'en ai profité aussi pour rappeler certaines idées qui ne sont que de la philosophie des sciences et qui sont au fond des mathématiques, mais prises sous l'angle philosophique. Ce qui fait que cette partie philosophique elle-même peut se décomposer en deux parties distinctes, dont l'une pourrait à la rigueur se rattacher aux mathématiques, mais dont l'autre est nécessairement tout à fait distincte. Il fallait donc deux parties distinctes.
Un chapitre de votre livre est consacré à Descartes et un autre à Bergson. Et tout d'abord Descartes. À la page 156, vous écrivez que la lecture du discours de la méthode vous a fait croire que l'admiration qu'on a en général pour Descartes est exagérée. Et quelques pages plus loin, vous ajoutez « Je veux bien croire que j'ai autrefois sous-estimé le rôle de Descartes dans l'histoire de la philosophie, mais je reste convaincu qu'on a surestimé le rôle de sa philosophie dans l'histoire de la science. »
Oui, j'ai commencé l'étude de Descartes par le discours de la méthode que j'avais lu moi-même. Je ne devais pas faire ma classe de philosophie et j'étais curieux de savoir ce que c'était que ce Descartes qu'on admirait tant. Et j'ai trouvé dans le discours de la méthode plusieurs parties qui m'ont paru absurdes. Alors, ma conclusion a été très nette. On s'était trompé en admirant tellement Descartes. Et il en est résulté pour moi, je dirais, pendant quelque temps, une sorte de grande colère contre Descartes ou contre les cartésiens, ce qui m'a fait exagérer ma sévérité. Depuis, j'ai constaté qu'il y avait tout de même dans Descartes des choses qui méritaient d'être retenues. D'autre part, je m'étais demandé si Descartes avait eu des précurseurs ou si c'était vraiment nouveau. Eh bien, je crois que les historiens de la philosophie savent à quoi s'en tenir et que Descartes a incontestablement apporté du nouveau dans l'étude de la philosophie. Mais, au point de vue scientifique, je ne crois pas que son influence ait été tellement grande. Les mathématiciens appliquaient déjà depuis très longtemps la méthode cartésienne. Archimède appliquait depuis longtemps la méthode cartésienne. On l'enseignait dans les cours de mathématiques. Si un élève avait fait une faute contre la méthode cartésienne, son maître l'aurait repris. L'idée de Descartes a été que ça pouvait s'étendre aux autres sciences. Mais il n'est pas entré dans les détails. Chaque science a ses méthodes propres. Un médecin, par exemple, apprendra plus en lisant l'œuvre de Claude Bernard qui traite de la méthode de la médecine, il n'aura pas l'idée de se reporter au discours de la méthode. Et la science fait tellement de progrès qu'actuellement, un étudiant en médecine aura plus d'intérêt à écouter son professeur et à s'inspirer des méthodes que son professeur lui apprend plutôt que de lire Claude Bernard et a fortiori plutôt que de lire Descartes.
Et quelques chapitres plus loin, vous parlez de votre rencontre avec Bergson. Si vous le voulez bien, nous allons écouter ce que vous écrivez à ce propos.
Je ne peux pas dater cette rencontre avec précision. Je pense que j'avais à peu près 20 ans. J'avais souvent entendu faire l'éloge de ce philosophe. Je savais qu'un public choisi affluait à son cours du Collège de France. J'eus envie de le connaître et entrepris de lire les données immédiates de la conscience. Je fus très intéressé par le premier chapitre. Il m'instruisait. Le second me parut difficile à comprendre. Le troisième me parut tout de suite dominé par une idée fausse, à savoir qu'on ne peut sauver notre liberté qu'en niant le déterminisme. J'étais depuis longtemps convaincu qu'il n'y a aucune contradiction entre le déterminisme et le sentiment que nous avons d'être libres. Depuis cette époque, j'ai plusieurs fois relu ce livre. Mon impression sur le premier chapitre et sur le troisième n'a pas changé. Mais le second, où sont discutées les notions d'espace et de temps, m'a paru, lui aussi, contenir des erreurs. Je veux d'abord insister sur l'impossibilité de concevoir un événement qui ne soit pas déterminé par une cause, ou plutôt par un ensemble de causes. Je suis persuadé que ceux qui en parlent n'ont pas une idée nette de ce dont ils parlent. Ce qui est certain, c'est que la réaction naturelle d'un homme cultivé en présence d'un événement qui l'étonne est d'en chercher la cause. Un homme a-t-il de la fièvre, le médecin vient et cherche la cause. Un accident grave se produit-il, la police arrive et cherche la cause pour établir les responsabilités éventuelles. Un crime est-il commis? La police estime qu'il n'a pas été commis sans cause et recherche ceux qui peuvent avoir eu une raison de le commettre. La partie la plus intéressante de la recherche scientifique est la recherche des causes.
Page 159, vous affirmez « Je ne suis ennemi que d'une certaine métaphysique et de certains philosophes qui prennent des jeux de mots pour des raisonnements. »
Eh bien, là, il m'est facile de vous répondre. Je ne suis pas ennemi de la métaphysique, en ce sens que tout le monde a plus ou moins ce qu'on peut appeler l'inquiétude métaphysique. Nous nous demandons quelle est notre destinée, pourquoi nous sommes sur Terre, et les religions aussi bien que les philosophes essayent à répondre à cette question. Mais ce que je reproche à certains métaphysiciens, c'est d'avoir pris, comme pour des raisonnements rigoureux, des choses qui ne le sont pas. Je crois qu'il y a dans le discours de la méthode deux preuves de l'existence de Dieu. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, aucun philosophe ne considère que ces preuves sont convaincantes. Par conséquent, il faut dire que les métaphysiciens peuvent être contestés dans leur méthode de raisonnement. C'est cela que je veux dire. D'autre part, chez les disciples de Descartes, je retrouve un peu, dans la mesure où je les connais, car j'avoue les connaître très peu, j'ai retrouvé un peu cette illusion de la rigueur.
Vous écrivez aussi, ce qui m'irrite à propos de certains philosophes, c'est que souvent on les admire jusque dans leurs erreurs.
Eh bien, il m'est en particulier arrivé de lire des éloges de Descartes qui voulaient tout admirer. Eh bien, je considère comme incontestable que Descartes a commis des erreurs et s'il faut admirer les idées nouvelles qu'il a introduites dans la philosophie, même certaines idées nouvelle dans la science, il a en particulier eu l'idée que la science devait être collective et que la recherche collective devait être organisée, ce qui est une idée très intéressante pour son époque. Mais d'autre part, je vois souvent admirer des erreurs. J'ai vu en particulier une critique de Descartes qui admirait son style. Eh bien, je trouve que le style de Descartes n'a rien d'admirable, surtout si on le compare à celui de Pascal. Quand on veut tout admirer, quand on veut s'insurger contre tous ceux qui critiquent Descartes, eh bien, c'est ce que j'appelle admirer ses erreurs. Il faut permettre la critique des plus grands hommes, des plus grands esprits.
J'ai relevé cette autre phrase dans votre livre. Le bon sens est à l'homme ce que l'instinct est aux animaux, il ne saurait s'en passer. Oui. Il est beaucoup question de bon sens dans votre livre.
Oui. Je crois en effet beaucoup au rôle du bon sens. J'ai en effet souvent parlé du bon sens dans mon livre pour réagir contre certains mathématiciens qui voudraient réduire les mathématiques à des opérations de pure logique. J'estime que ce n'est pas possible. Les mathématiques ne pourraient pas être l'œuvre d'un robot qui évidemment ne donnerait que des théorèmes exacts, mais qui donnerait un grand nombre d'énoncés absolument inutiles. Il faut un peu d'intelligence, il faut quelque chose qui ne soit pas de la logique et quelque chose qui soit plus ou moins instinctif. Comment faut-il qualifier ? Est-ce du bon sens ? Est-ce de l'intuition ? Pour moi, ces deux mots sont très voisins l'un de l'autre. L'intuition étant peut-être une forme supérieure du bon sens. Ce bon sens nous est constamment nécessaire dans la vie. Et il se rapproche aussi de certaines opérations que nous faisons instinctivement. Quand dans la rue, nous évitons de cogner une autre personne, nous ne réfléchissons même pas. Ce sont des réactions instinctives que les animaux ont aussi bien que nous. Le chien nous évite aussi bien que nous nous évitons de cogner un autre passant ou un taxi. Ce sont des choses qui me paraissent absolument analogues, indispensables à la vie pratique, à la vie courante. bien, je considère que le bon sens est peut-être une forme supérieure de l'instinct, de même que l'intuition est une forme supérieure du bon sens et est nécessaire à la recherche scientifique. Mais le bon sens est nécessaire à l'homme dans la vie de tous les jours, de même que l'instinct est nécessaire aux animaux.
On résout un problème en en posant un autre, écrivez-vous. En expliquant un mystère, on en découvre un autre. On n'arrive jamais à une explication définitive.
La première phrase que vous citez donne peut-être lieu à un malentendu. Je voulais dire que quand on résout un problème, on se trouve amené à en poser un autre. Ainsi, le fonctionnement de nos organes s'explique plus ou moins depuis que l'on connaît les détails de ce fonctionnement. J'ai donné dans mon livre l'exemple des relations sexuelles. Pourquoi un enfant naît-il lors du rapprochement entre un homme et sa femme? Eh bien, nous savons dans les détails comment ça se passe, mais la question se pose à nouveau à une échelle plus petite. Comment résulte-t-il la création d'un être nouveau lorsque le spermatozoïde rencontre un ovule? Il en est de même dans tous les problèmes de la physique. On résout un problème à une échelle relativement macroscopique en expliquant le détail microscopique, mais l'étude de ce détail microscopique pose de nouveaux problèmes et il est probable que cela continuera ainsi indéfiniment.
Vous écrivez aussi que chaque étape des progrès de la science comporte trois parties. Un nouveau problème, une méthode-outil pour le résoudre et de nouvelles règles pour contrôler cet outil, pour définir les conditions de son emploi.
J'ai été amené à écrire cette phrase parce que il m'a semblé qu'il y avait une confusion entre les deux acceptions du mot méthode. Quand on parle de la méthode de Descartes, eh bien, elle ne vous indique pas les moyens de résoudre un problème, elle vous indique seulement les moyens de ne pas se tromper. Alors il m'a semblé qu'il fallait distinguer nettement la méthode, qui est le résultat d'un effort d'imagination qui permet de résoudre des problèmes d'un type nouveau qu'on n'avait jamais abordé jusqu'ici, de la méthode qui permet de contrôler l'exactitude des raisonnements.
Un chapitre de votre livre est intitulé « Dieu existe-t-il ?» et vous écrivez « Chez moi, c'est l'esprit scientifique qui a détruit la croyance en Dieu. »
J'ai en effet cru longtemps qu'il y avait contradiction absolue entre l'existence de Dieu et certains résultats de la science. À la réflexion, il n'en est rien, je m'étais trompé. Mais l'esprit scientifique, et en particulier l'esprit cartésien, habitué à s'interroger sur tout, à ne jamais considérer comme acquise une chose qui n'est pas absolument évidente. Il était donc fatal que le problème de l'existence de Dieu se pose par le développement de l'esprit scientifique. Et je crois que la philosophie risque de nuire ainsi beaucoup à la religion. D'autre part, depuis que mon livre a été publié, mes idées ont légèrement évolué. Je suis persuadé que la religion est, dans une très grande mesure, un besoin de l'âme humaine et qu'il y aura toujours, ou au moins très longtemps, deux sortes d'esprits, les uns qui reviendront instinctivement toujours à la religion et les autres qui s'en écarteront parce que l'esprit scientifique leur aura montré que l'existence de Dieu n'est pas réellement prouvée.
Quelle leçon souhaitez-vous que le lecteur tire de votre livre?
Je vous répondrai en vous rappelant ce que j'ai dit dans l'introduction, que c'est à chacun à glaner dans ce livre ce qui peut l'intéresser et aussi ce qu'il peut comprendre, puisqu'il y a des parties mathématiques qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un mathématicien pas comme les autres. Je crois qu'il y a des psychologues qui pourront être intéressés par la connaissance du mathématicien que je suis. Leur nombre sera-t-il grand, je n'en sais rien, mais il y a intérêt à leur donner le moyen de se documenter. Il y a beaucoup de biographies qui ont eu un gros succès. Eh bien, je ne prétends pas écrire moi-même la mienne, mais donner des renseignements qui peuvent intéresser certains psychologues.